la question de la reconnaissance et des principes de justice, il me semble à lire les travaux de Axel Honneth, notamment sur la lutte pour la reconnaissance, qu'effectivement, s'agissant du rapport des familles populaires à l'école, il y a des enjeux de reconnaissance, de dignité, dirait Bruno pour AT Descartes-Monde, mais un enjeu de reconnaissance parce qu'il y a un sentiment d'injustice qui est là, qui est engendré, je dirais, par le fonctionnement ordinaire presque, c'est terrible de dire ça, mais de l'institution scolaire, cette violence symbolique que j'évoquais à l'instant. Donc on peut dire qu'au point de départ, il n'y a pas accord. Voilà. Ne faisons pas comme si ça coulait de source, que c'était évident pour tous les parents. Il n'y a pas accord, il n'y a pas de continuité entre les familles et populaires et l'école, mais il y a une dissonance culturelle. Ce n'est pas les mêmes mondes. Ce n'est pas les mêmes mondes. Il y a des statuts qui ne sont pas à égalité et il n'y a pas nécessairement de langage commun. C'est-à-dire une sémantique, mais aussi des formes d'expression qui soient partagées. Donc, ce n'est pas simple. Donc, il y a des enjeux assez lourds, je dirais, derrière cette question du partenariat ou de la communication avec les parents. Et on voit bien, d'une certaine manière, que c'est difficile. Du côté de l'école, qui n'arrive pas à toucher les parents qu'elle aimerait associer davantage. Pire que ça, elle fabrique d'une certaine manière des parents disqualifiés, stigmatisés, la figure du démissionnaire. Et du côté des parents, il y en a un certain nombre qui souhaitent tout simplement pouvoir s'en remettre à l'école et ne pas être associés parce que leur demander de faire, c'est les mettre en difficulté en quelque sorte. C'est leur demander ce dont ils ne sont pas capables. Donc il y a un enjeu sur la définition des rôles et des responsabilités. Alors, je pose un certain nombre de questions. Je n'ai pas de réponse précise, mais comment effectivement entendre et considérer la parole et les droits de tous les parents? On voit bien qu'il y a un enjeu fort de ce côté-là. Comment tisser des liens dans un rapport de légitimation réciproque et de reconnaissance mutuelle? Moi, je crois que le premier acte auquel on doit travailler, c'est un acte de reconnaissance de ses parents, de ce qu'ils sont et tels qu'ils sont, c'est-à-dire les parents réels. Là, on travaille avec des figures de parents qui sont un parent, enfin qui représentent un parent idéal, qu'on ne va pas trouver dans la diversité des familles. Et comment refonder cet équilibre dans l'échange avec ses parents réels? Alors, j'ai quatre axes en termes de principe de justice, à mettre en discussion, bien sûr, ça n'a pas d'autre prétention. Premier axe, c'est reconnaître la pluralité des formes d'expression, d'implication et de contribution des parents. Il est faux de dire que les parents ne s'impliquent pas. Ils s'impliquent à la mesure de leurs compétences et de ce qu'ils sont. Alors ça prend des formes ténues, c'est vrai, cacher un cahier de vacances, c'est pas grand-chose, c'est pas très visible, mais c'est un signe. Et quand on voit les pratiques d'achat des familles populaires, elles le font aussi. Donc voilà un acte. Quand l'enfant rentre à la maison, elle pose, c'est ce qu'elles nous ont dit en tous les cas, il n'y a aucune raison de ne pas les croire, elle demande à l'enfant s'il a bien fait ses devoirs. Est-ce qu'elle l'aide? Est-ce qu'elles sont en mesure de vérifier? Non, bien souvent, ça les dépasse, comme elles disent elles-mêmes. Mais voilà, elle rappelle l'école dans l'espace domestique. Il faut accepter l'idée qu'il y a différentes manières de concevoir la scolarité de l'enfant et surtout le bien de l'enfant. Il y a aussi une question autour du bien de l'enfant. Ce que l'école pense bien pour l'enfant, ce n'est pas nécessairement ce que les parents pensent bien pour leur enfant. Donc là, c'est une question, à mon avis, qu'il faut travailler davantage. C'est la question de ne pas vouloir conformer des parents à un bon parent d'élève, tel qu'on les attend, tel qu'on les a définis normativement, selon ce rôle, mais regarder ce dont ils sont capables. Et donc prendre en compte des parents réels. Dans le rapport au savoir, on dit les élèves réels, et j'ai envie de dire, il faut aussi vouloir travailler avec des parents réels, pas les parents comme une fiction du parent d'élève idéal qu'on ne rencontre pas. Donc permettre aussi, je crois, dans cet enjeu d'expression, aux parents de dire leurs expériences et leurs attentes. Le témoignage de Catherine, pourquoi est-ce qu'il est aussi poignant? C'est parce que précisément, elle nous donne à entendre ceux qui sont parlés puisqu'ils ne parlent, ceux dont on n'entend jamais la voix. Et donc là, ça devient précieux tout d'un coup. Les choses s'éclairent parce qu'effectivement, cette voix-là, on ne l'entend jamais. Sauf qu'on sait qu'il y a ses parents invisibles quelque part, mais on ne les côtoie pas, on ne les entend pas. Deuxième enjeu, créer les conditions d'égalité des statuts des droits face à l'école. Et je pense que ça passe par une explicitation des attentes de rôle et de responsabilité. Des choses ne sont pas clairement définies. Quelle est la contribution juste des uns et des autres? Je dis bien la contribution juste, pas la peine de demander aux parents ce qu'ils ne pourront pas faire. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Ou d'attendre qu'ils se transforment en parents aidants pour des devoirs. Ils n'y arriveront pas. Le temps va jouer contre eux de toute façon. Donc, travaillons avec des parents réels et nous serons plus justes à ce moment-là, je pense, dans ce qu'on pourra construire avec ces parents. Donc, ce qu'on pourra appeler une égalité distributive, c'est-à-dire qui prend en compte chacun à la mesure de ses moyens. Hein, voilà. Nécessairement, il faut pondérer le rapport qu'on veut construire avec les parents en fonction de ce qu'ils sont réellement et non pas en laissant libre cours à ce que j'appelle la logique libérale, c'est-à-dire l'initiative, l'autonomie, la responsabilité des parents. Quand vous faites ça, vous perpétuez, vous amplifiez l'inégalité entre les parents. Hein. C'est ce que j'ai montré comme premier modèle tout à l'heure du parent individualisé. Enfin, dernière diapositive, deux autres axes, la diversification des formes, supports et contenus du lien. Il faut penser le lien avant de penser peut-être même la relation ou la communication. Comment on peut faire lien et comment ce lien peut-il faire sens avec l'ensemble des parents? Ce qui pose la question des règles et de leur explicitation, une fois de plus, et dans l'explicitation, on va se rendre compte qu'évidemment, on ne peut pas s'adresser à tous les parents. Il faut penser au statut de l'écrit, de la parole, dans la façon dont on va échanger avec les familles, des lieux de rencontre, de sens à donner à la présence et à l'absence. Vous voyez, il y a beaucoup de précautions à prendre par rapport à des évidences routinières dans les pratiques des acteurs. Qu'est-ce qui est soumis à discussion? Moi, je veux bien la communication, mais pour dire quoi, hein? Donc, il faut qu'on clarifie aussi qu'est-ce qui peut être soumis à discussion. C'est inutile de vouloir parler avec des parents des choses qui leur échappent, hein, du point de vue des enjeux d'apprentissage ou la façon d'aider dans les devoirs. Et sans doute, puisque ces parents ne peuvent pas le faire seuls, il faut penser avec des médiations et des intermédiations, c'est-à-dire la mise en réseau de l'ensemble des acteurs sur les territoires. Ça me paraît fondamental. Et je terminerai avec le principe de différence que je reprends de John Rawls. Hein, c'est un théoricien de la justice qui a écrit un livre important sur cette question, qui est un peu le garde-fou, je crois, d'un certain nombre d'actions qu'on pourrait vouloir mener. Je pense à un livre intéressant, justement, pour souligner les biais possibles. Hein, c'est celui sur l'analyse d'une pratique de médiation culturelle que j'ai mis en biographie. Là, donc, le premier, hein, Bouveau, Cousin, Favre, l'école face aux parents, analyse d'une pratique de médiation. En fait, ce qui montre, et je fais le lien avec la théorie de John Rawls, c'est que si on veut mettre des intermédiaires pour aider les familles qui ne maîtrisent pas bien la langue française dans leur rapport à l'école, finalement, on va fabriquer des figures de parents un peu insistées et stigmatisées, quoi. Alors, vous voyez, le piège, quoi. C'est-à-dire qu'on veut aider avec les meilleures intentions, mais finalement, on est en train de construire une catégorie de parents un peu assistés, aidés et stigmatisés à certains égards par les acteurs, voire par d'autres parents. Donc comment faire en sorte que la prise en compte de la différence, qui est nécessaire, hein, on ne peut pas être indifférent aux différences, hein, qu'il s'agisse des élèves ou des parents, ne désavantage pas les plus défavorisés. Donc il faut que la confrontation à l'altérité à laquelle nous sommes confrontés, hein, l'altérité, elle est là, elle doit être un facteur d'enrichissement, mais comment cette confrontation ne doit pas conduire à inférioriser, donc à souligner des manques et des carences, c'est-à-dire ne pas dire ce que ces parents ne sont pas, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ont en moins, hein, c'est aussi derrière toute la théorie du handicap socioculturel, ou comment ne pas les assimiler à un groupe, hein, qui va du coup subir une image négative, une forme de stigmate. Et enfin, si je peux me permettre, il me semble que l'urgence presse, c'est d'expérimenter et d'inventer, hein, puisqu'on voit bien qu'on est peu avancé par rapport à nos intentions finales.